France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'étrange maladie de Nimamata. Dans les années 50, au sud du Japon, les pêcheurs de Minamata remarquent des phénomènes bizarres. La nature est devenue comme folle. Un jour, une femme prise de convulsions se présente à l'hôpital. Elle aussi semble atteinte d'un mal étrange et inconnu. Bientôt, des milliers de nouveaux-nés viendront au monde, le corps atrophié, les sens diminués. La maladie de Minamata se révèle dans toute son horreur. Très vite, l'origine du mal est identifiée. L'usine de pétrochimie, la Chisso, qui emploie un tiers des habitants de la région, déverse ses eaux usées pleines de mercure dans la mer, à Minamata. Au début des années 70, le monde entier découvre alors les visages déchirés et déchirants de ces enfants malades à travers une série de photos iconiques de l'américain Eugene Smith. Minamata devient un symbole cristallisant l'inquiétude qui s'est emparée du monde moderne. On crèvera tous de la pollution industrielle. Notre invitée aujourd'hui, Anne-Claude Ambroise Rendu, historienne, spécialiste de l'histoire de l'environnement. Elle a publié en collaboration avec d'autres historiens une histoire des luttes pour l'environnement aux éditions textuelles en 2021. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Bastien Jans, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
Encore un village mort. Allons-nous-en. La foucaille va bientôt l'engloutir.
Il était une fois, dans un futur post-apocalyptique, une forêt toxique. La foucaille prolifère sur Terre et empoisonne ce qui reste d'une humanité violente et déchirée. Dans une vallée préservée, battue par des vents marins, la princesse Lucica tente de maintenir l'équilibre précaire entre l'homme et la nature. Vous reconnaissez peut-être là l'histoire du premier conte cinématographique du grand maître Hayao Miyazaki, Nausicaa de la vallée du vent, sorti au Japon en 1984. Né à Tokyo en 1941, ce dessinateur de génie a évidemment été traumatisé dans son enfance par les bombardements américains et l'horreur d'Hiroshima. Mais Miyazaki puise aussi son inspiration inquiète, sa crainte obsessionnelle de l'apocalypse environnementale, dans une autre histoire qui a terrifié le Japon dans les années 60, 50 et 70, une histoire vraie. La vallée que défend Nausicaa pourrait bien porter un autre nom, celle de la baie de Minamata. Il était une fois une baie mirifique sur l'île de Kyushu, au sud du Japon. Cette petite mer intérieure pullule de poissons et nourrit depuis des siècles des centaines de familles de pêcheurs et de paysans qui peuplent le petit village côtier de Minamata. Au tournant du XXe siècle, le débit formidable de la chute d'eau Shogi dans l'arrière-pays ouvre de nouvelles perspectives. La houille blanche, l'électricité par la force du courant. Un barrage est ainsi construit en 1906 à l'initiative d'un industriel, Noguchi Uyun. Dans l'élan de progrès qui énerve ce Japon, bien décidé à rivaliser avec les Occidentaux, même les samouraïs plient le genou devant ces nouveaux maîtres en col blanc. À Minamata, le village est offert aux nouveaux bienfaiteurs de la région. Noguchi Uyun, fondateur de la firme Nihon Shiso, fait construire alors, en surplomb des habitations, une usine de carburant et d'engrais, qui devient en quelques années le plus gros producteur de produits chimiques de l'Empire. L'expansion de la Chisso est sans limite et rejaillit sur le village, qui en quelques décennies devient un bourg, puis une ville. La place que prend l'usine dans ce petit territoire est parfaitement résumée par cet ex-employé, Senken Yamashita, témoignant pour l'émission Thalassa en 1999.
L'entreprise s'est implantée ici avec l'arrogance d'un colon. Comme un seigneur, Shiso régnait en maître sur la région et exploitait les gens. Il n'y avait qu'un objectif, le profit facile. Je pense que les dirigeants actuels ont la nostalgie de ce temps-là.
L'usine Shiso devient tellement importante qu'en 1931, elle a l'honneur de recevoir la visite du nouvel empereur Hirohito himself. Pour l'occasion, évidemment, la ville se fait belle. On parque sur une île, à l'abri des regards, tous les lépreux, les malades mentaux et autres handicapés. Car rien ne doit détonner dans ce tableau de la puissance japonaise qu'est la baie de Minamata. Son usine flamboyante et le sel qu'on appelle, avec le constructeur automobile Nissan, une zaimatsu, fleuron de cet empire du soleil levant et conquérant. Bientôt d'ailleurs, le Japon entame une sanglante conquête de la Chine et s'engage dans les combats aux côtés des nazis et des fascistes. L'Ashiso est de toutes les aventures et son créateur, Noguchi-gun, mourra heureux et convaincu en 1944. Un an plus tard, l'usine de Minamata est quasi entièrement détruite par les bombardements américains et l'empereur Hirohito prend la parole à la radio japonaise. Nous sommes le 15 août 1945.
Bien que chacun ait fourni ses meilleurs efforts, en dépit des vaillants combats menés par nos forces militaires et navales, de la diligence et de l'assiduité de nos serviteurs et dévouement de nos millions de sujets, la guerre a suivi son cours, mais pas nécessairement à l'avantage du Japon. Tandis que les tendances générales prévalant dans le monde sont toutes retournées contre ses intérêts. En outre, l'ennemi a mis en œuvre une bombe nouvelle, d'une extrême cruauté, dont la capacité de destruction est incalculable et décime bien des vies innocentes. Si nous continuons à combattre, cela entraînerait non seulement l'effondrement et l'anéantissement de la nation japonaise, mais encore l'extinction complète de la civilisation humaine.
Le Japon d'après-guerre est un territoire dévasté. Mais l'usine de Minamata bénéficie de la reconstruction pacifique orchestrée par Washington. Il faut dire que ce que l'on fabrique dans l'usine Shiso intéresse grandement les Américains. De l'acétaldéhyde, un produit qui permet de synthétiser de l'acide acétique, ouvrant lui-même sur un océan de possibles, chlorure de vinyle, butanol, octanol, autant de produits au nom barbare qui façonnent notre monde tout en plastique. La Shiso sait produire en masse d'acétaldéhyde grâce à une technique éprouvée depuis 15 ans utilisant du mercure. C'est l'ingénieur Hikoshishi qui a mis au point son schéma de production. L'usine est donc rebâtie et redouble d'activité. L'empereur Hirohito vient de nouveau faire honneur de sa visite, tandis que l'ingénieur Hikoshishi est élu maire de Minamata, une ville qui abrite à présent plus de 50 000 âmes. La baie de la chimie peut ronronner tranquillement en songeant aux décennies de prospérité qui l'attendent. Si ce n'est ces terrifiantes explosions qui au moins une fois par semaine se font entendre dans l'usine, annonçant un ou plusieurs blessés. Ces poissons morts qui par centaines, par milliers se mettent à flotter dans la baie de Minamata. Ces corbeaux qui d'un coup tombent en plein vol et s'écrasent la tête la première. Ou ces chats qui deviennent fous, pris de spasmes, dansant sur place avant d'aller se jeter dans la mer. La nature est atteinte d'un mal étrange, effrayant. La vie dans la mer de Minamata périclite. En 1950, on pêchait encore près de 32 tonnes quotidiennes dans la baie. En 1956, il n'en reste plus que 6 à se partager. En cette même année 56, une vieille dame venue du quartier des pêcheurs se présente à l'hôpital. Elle est atteinte de violents tremblements. Les médecins sont désemparés. Ils ne reconnaissent aucune maladie existante. Partout dans le village, et principalement dans les familles qui vivent de la pêche, les mêmes symptômes surgissent. Matsu Watanabe, maman de la petite Matsuyo, raconte l'arrivée brutale de la maladie dans son foyer au journaliste suisse Fernand Gijon quelques années plus tard.
Un après-midi qu'elle jouait dehors dans la cour, elle devait avoir 6 ans et demi, tout à coup, elle ressent des douleurs dans les bras et dans les jambes. Ses membres ne répondent plus. Elle se plaint, elle pleure et me montre son genou. Quand elle essaye de le plier, ça lui fait tellement mal qu'elle crie. Quand je la porte jusqu'au lit, elle tremble de la tête aux pieds. Quelques jours passent et je vois que ma Matsuyo voit de plus en plus mal.
À quelques pâtés de maison de là, une petite fille vient de naître. Elle s'appelle Tomoko et deviendra plus tard une icône mondiale. Pour l'instant, elle n'est qu'un minuscule être recroquevillé sur elle-même qu'on ose à peine toucher. Fernand Gijon la rencontrera adolescente et lui viendra à l'esprit une seule image en la voyant, celle d'un squelette vivant.
Tomoko, le squelette vivant. Ses yeux seuls s'animent. Immense et globuleux. Il fixe le ciel, ses yeux vides, ce nez en forme de griffe, ses os sur lesquels la peau se tend comme le dessus d'un tambour, ses mains crispées, tordues, incapables de saisir un objet, et ses pieds si menus, si déformés, si inutiles qu'ils pendent à l'extrémité des tibias comme des boules de chiffon. Sa mère la porte sur le dos sans relâche.
Il y a d'abord des tremblements, puis le sujet est pris de crises de démence, tandis que ses sens, la vue, l'élocution, l'ouïe, s'effacent peu à peu. Au bout du chemin, la mort, qui survient dans plus d'un tiers des cas. Les 52 premiers sujets atteints par l'étrange maladie de Niwamata à la fin de l'année 56 présentent des symptômes similaires. Alors aucun doute, la même maladie les frappe. Mais laquelle ? Plus terrifiant encore sont ces nourrissons qui par dizaines naissent lourdement handicapés. Le médecin de la ville, le docteur Osokawa, qui est aussi employé de la Shiso, alerte la municipalité sur le déclenchement de ce qu'il qualifie d'épidémie inconnue du système nerveux central. Évidemment, on craint d'abord la contagion, si bien que dès les prémices de la maladie, les patients sont ostracisés, mis au banc de la société, confinés quoi. D'ailleurs, les malades se trouvent dans un tel état que la plupart des familles préfèrent les garder cachés. À la fin de l'année 1956, les chercheurs de la faculté de médecine de Kumamoto, non loin de Minamata, entreprennent des prélèvements dans la baie. En quelques mois, ils relèvent la présence d'un métal lourd dans les poissons et les coquillages. Reste à déterminer lequel. Dans le même temps, le docteur Osokawa a été missionné par ses supérieurs pour mener des expériences sur des chats. À chacun d'entre eux, son équipe donne à manger des coquillages et des poissons prélevés à divers endroits autour de l'usine, là où la Shiso rejette ses eaux usées. Dans son carnet, il note.
25 mars. Le chat arrête tout mouvement, s'assied, bave. Crispation paralysante. Soudain fonce en sautant contre murs, portes et meubles. Après 30 secondes, s'immobilise. 26 mars. Spasme très fort dans les pattes arrière. Tout en étant très crispé, saute violemment. Même mouvement, toutes les 20 minutes. 27 mars. Tout d'un coup, pattes arrière paralysées. Impossible de se tenir debout. Ne montre plus de réflexes. Gorge et nez, suintement sanguin de plus en plus fort. 28 mars. Reprend un peu de vitalité. Vers le soir, crispation et suite de 33 crises toutes les 10 minutes. 29 mars. Dès le matin, fonce en avant. Fin de la journée, fonce, retombe, ne peut plus se relever. Crispation dans tout le corps, il hurle et meurt.
Au 400e chat torturé, il n'y a plus de doute sur l'élément qui empoisonne toute une ville, c'est le mercure. Plus exactement, le mercure méthyl, CH3-2HG, la formule maléfique de la rencontre entre le mercure et l'oxygène. C'est-à-dire que lorsque le métal volatile est libéré dans les eaux de la baie de Minamata, le poison se forme et circule alors dans la chaîne alimentaire, se renforçant à chaque maillon. Du plancton aux crevettes, des crevettes aux petits poissons, des petits poissons jusqu'aux humains qui habitent la baie, le poisson devient poison. Les conclusions du docteur Osokawa sont un peu plus claires. L'entreprise n'a jamais ignoré les risques que son activité fait peser sur celle des pêcheurs et maintenant sur la vie des gens. C'est comme pour les explosions qui arrachent les corps de leurs employés. Le risque est considéré comme acceptable. La méthode est éprouvée depuis longtemps. Il faut noyer le poisson, justement, feindre l'ignorance et maintenir le plus longtemps possible les habitants dans le doute. La direction impose d'abord le silence au docteur Osokawa, qui, docile, s'en tient là. Puis elle soutient la production de contre-études, discréditant les résultats de son propre scientifique. Enfin, elle signe quelques chèques dits de consolation. C'est du moins comme ça qu'elle appelle officiellement l'indemnité versée aux pêcheurs pour acheter la paix sociale. Oui, sauf qu'en parallèle, les recherches de l'université de Kumamoto sont arrivées aux mêmes conclusions. Le 14 juillet 59, celle-ci s'affiche à la une de l'Asahi Shimbun, le plus grand quotidien du Japon, avec ses 7 millions d'exemplaires vendus chaque jour. Il est écrit « Le mercure, cause numéro 1 de la maladie de Minamata ». Alors la nouvelle fait l'effet d'une bombe, et les dénégations de la direction de Shiso n'y changent rien. Cette fois, les pêcheurs se reviffent. Par centaines, ils viennent, menaçant, camper devant les grilles de l'usine. Et bientôt, des centaines de bateaux des villages avoisinants investissent la baie de Minamata. Eux aussi sont atteints par la pénurie de poissons et voient l'inquiétante maladie se développer dans leur foyer. Plusieurs fois, et jusqu'à l'hiver 59, les manifestants pénètrent dans l'usine et saccagent tout sur leur passage. Le mouvement est d'une telle ampleur qu'il trouve même un écho en France, où dans un premier reportage à la RTF, on entend parler de Minamata.
Un fléau mystérieux s'est abattu sur Minamata, le petit port de l'île nippone de Kyushu. Une étrange maladie nerveuse s'était répandue depuis peu dans la famille des pêcheurs. Finalement, on s'avisa que l'usine de produits chimiques établie dans le village jetait à la rivière ses eaux polluées. D'une seule voix, les pêcheurs accusèrent l'usine. La faculté intervint et on fit une expérience. On badigeonna un poisson avec les eaux de rebut et on l'offrit à un chat. Le résultat ne suffit pas à attendre. La colère des pêcheurs ne suffit pas à attendre non plus. L'usine qui emporte les marques est maintenant fermée. Les bateaux ne sortent plus. Personne ne cherche plus à prendre des poissons qu'on ne peut ni vendre ni manger. Et Minamata pleure ses 29 morts et des centaines d'innocentes victimes.
Mais la tension médiatique, même planétaire, est comme l'amant d'un soir. Il repart au petit matin. En tout cas, Shiso garde la tête froide et continue à jouer sa partition. Elle appuie sur la corde sensible de l'avenir économique et du maintien de l'emploi dans le bassin. Le Japon est en plein miracle économique et il faudrait céder à ces hordes de pêcheurs violents et rétrogrades. Dans la baie de Minamata, les esprits apeurés par la perspective du chômage ne sont pas difficiles à convaincre. Personne, surtout parmi les ouvriers de la Shiso, ne veut croire à cette histoire d'intoxication au mercure. Ne serait-ce pas plutôt la faute de ce navire américain coulé en 1945 ou des poissons avariés consommés par ces sagouins de pêcheurs? Avec l'aide de la préfecture, la direction obtient un accord. C'est encore un contrat de consolation. La direction promet ainsi des efforts pour limiter la pollution de la mer. Elle annonce qu'elle va installer un superfiltre, dit le Cyclator, une vaste supercherie à 60 millions d'yens, soit à peu près 1 million d'euros. Tandis qu'elle dédommage chichement les pêcheurs, ainsi que 78 familles de malades reconnues, non sans les piéger pour les années à venir. Car à l'alinéa 5, il est écrit « Même s'il est prouvé à l'avenir que la maladie de Minamata est provoquée par les déchets industriels de la compagnie, les patients s'engagent à ne pas faire d'autres demandes d'argent. » Cette fois, le poisson est bel et bien noyé et le poison, lui, coule toujours dans la baie de Minamata. One breath away from Mother Ocean.
Thank you.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'empoisonnement industriel de Minamata.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
En 1966, 10 ans après la découverte des premiers cas de la maladie de Nimamata, le mercure cesse enfin d'être rejeté dans la baie. Le résultat d'une prise de conscience de la direction de la Chisso, non. Elle a simplement trouvé un procédé plus économique. La production d'acide acétique est en train d'être délocalisée. De nombreuses suppressions de postes sont attendues à Minamata. La prospérité de la baie est de nouveau en question et les malades, eux, agonisent toujours en silence.
C'est tellement effrayant. Nous ne devons pas laisser de telles choses se reproduire. Tant de personnes sont mortes de la maladie de Minamata. Pour certains, ce n'est qu'un nom. Ce n'est rien pour ceux qui n'ont aucun contact avec la souffrance. Les familles qui n'ont pas de patients atteints de la maladie de Minamata ne savent pas ce que c'est.
Il est devenu comme un fou. Il ne comprenait plus rien. Je ne pouvais rien faire d'autre que de le regarder gémir et se débattre. Il fallait changer les pansements tous les jours, mais il se débattait toujours comme un fou. Rien n'était plus pitoyable que mon mari. Son corps se décomposait. Toute la peau de son dos s'est détachée.
Il s'appelle Tomoko Matsuda Utsuginori. Bientôt, leurs visages de martyrs de la pollution feront le tour du monde. Grâce notamment au documentaire incroyable du cinéaste Tsukimoto Noriaki, intitulé Minamata, les malades de leur monde, et dont nous venons d'entendre un extrait. Mais pour l'instant, en cette fin d'année 67, ils vivent toujours dans l'ombre, reclus. Leurs familles sont à peine aidées par les maigres indemnités versées par l'entreprise pollueuse. À Minamata, longtemps, on a refusé de se confronter à leur silhouette mortifère. Pour les ouvriers d'Achisso, comme pour les pêcheurs ou les paysans, les victimes de l'étrange maladie de Minamata annoncent la mort du pays. Alors, comment vendre du poisson frais si tout le monde croit qu'il est empoisonné? Ainsi, pendant plusieurs années, règne le déni. Et puis d'un coup, le vent tourne. Le 12 janvier 68, les malades sortent du secret. Une grande réunion est organisée dans le village, attirant une quarantaine de citoyens qui s'engagent aux côtés des familles de victimes. Une assemblée citoyenne est nommée. Son objectif est triple. Renégocier avec la Chisso les indemnités matérielles, obtenir des vraies excuses et surtout forcer le gouvernement à reconnaître officiellement les véritables raisons de la maladie de Minamata. Un sursaut qui trouve de l'écho. Au Japon comme ailleurs, le coup de la modernité triomphante, de ce miracle économique qui sourit aux uns mais pas aux autres, se fait de plus en plus sentir. Et la contestation sociale monte. Le fond de l'air est rouge, comme le titre du documentaire légendaire de Chris Marker, qui, dans ce grand mouvement de contestation populaire mondiale, accorde une place significative à la vague de colère qui se forme, en 68, dans la baie de Minamata.
Il ne s'agit plus de prendre le pouvoir dans un avenir lointain, mais de s'opposer au pouvoir à l'endroit précis où lui s'oppose à vous. À Minamata, les habitants se cotisent pour acheter des actions de la Chisso. Et quand l'assemblée des actionnaires se tient à Osaka, ils sont là pour attaquer.
Il en faut pourtant du chemin pour que la population de Minamata se rassemble, outrepasse ses divisions, fasse concorder ses intérêts et déclare enfin la guerre à la firme pétrochimique qui l'empoisonne. Il faut d'abord et surtout que le grand syndicat des employés de la Chisso prenne conscience qu'avec les familles malades, ils partagent le même ennemi mortel. Une prise de conscience qui prend une forme spectaculaire. Le 29 août 68, ils sont des centaines d'ouvriers à empêcher l'exportation de 100 tonnes de déchets pleins de mercure en Corée du Sud. Le lendemain, ils sont plus de 400 à écouter la lecture de la lettre de honte, acte de repentance d'un des premiers syndicats ouvriers du monde à s'engager contre la pollution industrielle. Fait rarissime, parce que, d'une certaine manière, c'est lutter contre leur propre outil de travail.
La maladie de Minamata a tué des dizaines de personnes, handicapé des dizaines d'autres, et déformé des dizaines d'enfants à leur naissance. Que les déchets de l'usine Chisso sont la cause de la maladie, cela a été dit depuis le début. Et qu'avons-nous fait pour lutter contre cette maladie? Nous n'avons rien fait.
Au rang des malades se joignent aussi les médecins de l'université de Kumamoto qui œuvrent depuis des années pour faire entendre raison au pouvoir public. Mais aussi des intellectuels de gauche et des artistes comme le cinéaste Tsushimoto Noriaki, nom déjà cité dans son documentaire, ou l'écrivaine Ishimure Michiko. En publiant en 69 l'ouvrage plébiscité « Mère de souffrance, terre pure, notre maladie » de Minamata, elle enfonce le clou dans l'opinion japonaise. Ça fait 10 ans qu'elle et quelques camarades de plume alertent sur le sort des malades de Minamata. Mais en cette fin des années 60, leur engagement porte enfin ses fruits. Minamata devient l'épicentre d'une contestation écologique qui ne dit pas encore tout à fait son nom. Une véritable école de pensée se développe ainsi au Japon autour de ce drame, alliant une critique du capitalisme prédateur et une réflexion sur la préservation de la nature. Étudiants et universitaires viennent même à Tokyo s'installer au village, auprès des malades et s'engagent dans le long combat juridique qui débute alors. Depuis juin 1969, la Shisso est officiellement en procès. Une partie des malades refuse la conciliation proposée par le ministère de la Santé, naviguant courageusement entre les tentatives d'intimidation et de division orchestrées par la direction. Soutenu par nombre d'associations du coin, par le syndicat des ouvriers et toute une équipe de recherche qui s'affaire à réunir des preuves accablantes. Les plaignants s'avancent au tribunal avec la ferme intention de faire plier le géant de la chimie.
Vous êtes aussi un parent. Vous ne comprenez pas ? J'ai perdu mes 2 parents. Les mots ne font aucune différence ? J'ai perdu mes 2 parents. Vous avez souri tout à l'heure. Je ne dis rien qui puisse faire sourire. Je suis Amamoto de Dezuki. Amamoto. Vous ne pouvez pas comprendre mes sentiments ? Combien pensez-vous que j'ai souffert ? Je ne peux pas l'exprimer avec des mots. On ne peut pas acheter des vies avec de l'argent.
Autrefois, le PDG de la Shisso était un demi-dieu qu'on respectait autant que l'empereur. Enfin, presque. Mais là, lors du procès, les victimes osent se mettre à sa hauteur, le sermonner comme un enfant. Et c'est peut-être là le principal changement de paradigme. Mais ce ne sont pas les ingénieurs des années 50, les premiers coupables, qui font face et encaissent les coups légitimes, non. Les cadres de la Shisso, tels son PDG, Yutaka, sont à présent des financiers de la banque Kogin, qui a pris le contrôle de la firme pétrochimique. Ils n'ont jamais mis les pieds à Minamata, et n'ont que faire des fautes morales de leurs prédécesseurs. Leur agenda est simple, gérer la crise, limiter les coûts. D'ailleurs, ils ont pour objectif de démanteler rapidement cette usine de Minamata qui est devenue un point mort. Face au cynisme de ses dirigeants, les plaignants vont devoir viser juste. Ou bien sûr, il y a les récits bouleversants des malades et de leurs familles. Il y a les témoignages courageux des ouvriers de la Shisso, qui, défiant la menace économique brandie par la direction, n'hésitent pas à témoigner contre elle. Mais une parole, surtout, vient faire la différence. Celle d'un homme qui se sait condamné, le docteur Osokawa, qui au crépuscule de sa vie libère enfin sa conscience. En juillet 1970, il produit un témoignage décisif, relayé dans la presse nationale. Il avoue alors le résultat de ses tests sur les chats qui démontraient, de manière irréfutable, et cela dès 1959, que les rejets de mercure étaient responsables de la maladie de Minamata. La Shisso savait depuis le début et elle n'a rien fait. Après une longue procédure judiciaire, elle est condamnée une première fois en 71, puis une seconde en 73. Après de longs mois de négociations, les plaignants reçoivent des indemnités records. Mais il faut encore plus de 20 ans pour que l'État japonais accepte d'indemniser l'ensemble des malades reconnus. Puis 10 ans encore pour fixer, en 2009, le nombre de victimes à environ 13 000 personnes. Bien en deçà des estimations scientifiques qui, elles, tablent sur près de 50 000 vies intoxiquées au mercure. Dans cette affaire, les victoires judiciaires sont de toute façon amères, parce que rien ne peut apaiser la rancœur des victimes, comme le signifie ce mot inscrit sur les banderoles des manifestants devant le tribunal Kumamoto en 70, « Unami ». Un mot difficilement traduisible, mais qui pourrait signifier une colère qui ne s'éteint jamais, une colère par-delà la mort.
Ce drame de Minamata a un retentissement considérable dans tout le Japon. Il suscite une prise de conscience nationale. Le pays met en question ses industriels, leur politique. Le Japon est devenu en 20 ans une puissance économique de premier plan, mais c'est au détriment du cadre de vie, au détriment de l'homme.
En devenant l'incarnation des victimes d'un mal invisible, la pollution, les malades de Minamata réveillent le Japon et le monde. Comme le symbolise ce reportage que nous venons d'entendre, tiré de l'émission La France défigurée en 1973. D'ailleurs, la décennie 70 est un tournant. La pollution et ses méfaits deviennent une préoccupation majeure dans tous les pays industrialisés. Et le sort déchirant des victimes de la schisto fait l'objet de nombreux reportages télévisés en Occident. En 1972, le premier congrès des Nations Unies pour l'environnement se tient à Stockholm. C'est la pierre fondatrice d'une certaine diplomatie environnementale dont on attend toujours aujourd'hui qu'elle porte ses fruits. Pour l'occasion, les malades de Minamata font le déplacement pour faire entendre leur voix. Il aura fallu une photo pour que ces victimes-là deviennent des symboles mondiaux de la lutte contre la pollution industrielle. Une photo publiée dans le magazine Life en 1972, prise par un certain Eugene Smith, un Américain venu s'installer avec sa femme dans la baie au début des années 70, bien décidé à documenter une catastrophe dont on ignore tout en Occident. Le cliché a été réalisé un jour d'hiver glacial de 1971. Le photographe avait pu passer le pas de la porte de la maison de Tomoko. Parce que plus rien ne devait demeurer caché, sa maman autorise même Smith à pénétrer dans la salle de bain. Oh, ils s'y reprennent plusieurs fois pour réaliser la prise parfaite. La maman y veille. Sa petite fille, aux membres atrophiés, aux côtes apparentes, aux yeux exorbités, ne doit pas faire peur. Elle ne doit pas apparaître comme un monstre, non. Elle doit susciter l'empathie. Alors, le photographe appuie sur le déclencheur et l'adolescente a l'air serein, la tête délicatement posée sur le baquet. Elle mourra 6 ans plus tard, à l'âge de 21 ans.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Vous écoutez Affaires sensibles, aujourd'hui la catastrophe de Minamata. Notre invitée Anne-Claude Ambroise Rendu, bonjour.
Bonjour Fabrice Drouel.
Historienne spécialiste de l'histoire de l'environnement, vous avez publié en collaboration avec d'autres historiens que nous citerons tout à l'heure, une histoire des luttes pour l'environnement aux éditions textuelles en 2021. Est-ce que ces images impressionnantes des victimes de Minamata ont nourri votre engagement ?
Ah, sans doute, puisqu'effectivement j'étais adolescente au moment où Eugene Smith a publié, préadolescente, au moment où Eugene Smith a publié ses photographies dans Life, et elles ont été presque immédiatement quand même relayées par la presse française, dont on peut dire que une grande partie de la presse en a parlé, à la fois Le Monde, qui d'ailleurs titrait « Les enquêtes entravées, rapports étouffés » de Minamata, absolument.
Il y avait un regard critique déjà.
Absolument. Mmh. La Gueule Ouverte, l'hebdomadaire écolo qu'on connaît tous, j'imagine, qui publiait déjà des photographies du film de Noriaki Tsushimoto, Le Nouvel Observateur, et puis la télévision de la France défigurée, qui a été évoquée dans le reportage, récit, oui. Qui en a parlé dès novembre 59 en réalité, et puis à nouveau, effectivement, en 73 et en 74. En montrant des photographies des victimes. Et cette photographie de Tomoko Obin a circulé un peu partout.
On peut dire que Minamata a révélé d'une certaine manière les premiers visages mondiaux de victimes de la pollution. C'est une matrice.
Sur le plan iconographique, peut-être. Mmh. Sur le plan de la circulation de l'image, parce que ça tient aussi à un certain état des médias à ce moment-là. Mais ce ne sont pas les premières victimes de la pollution. Puisque les premières victimes de la pollution, elles sont identifiées dès les débuts de la révolution industrielle, c'est-à-dire dès le début du 19e siècle.
Oui, mais la prise de conscience est peut-être plus tardive.
Alors, ça dépend de qui on parle, qui prend conscience. Ouais. Du côté des industriels et des fauteurs de troubles, si j'ose dire, la prise de conscience, elle est instantanée. Ils savent très bien, depuis le début, que ce qui déverse dans l'atmosphère ou dans les rivières est un poison, est dangereux. De la part du grand public, oui, ça c'est autre chose. On peut parler d'une prise de conscience qui se coagule en quelque sorte dans les années 1970. Dans le livre, on parle au sujet des années 70 d'un tournant environnemental.
Et oui, et en Europe, c'est Seveso notamment.
Et en Europe, c'est Seveso, donc à la fin des années 60, effectivement, qui bouscule un peu les choses.
Le Japon apparaît comme un pays dévolu à l'urbanisation, à l'industrialisation. C'est une société très matérialiste et en même temps très, très spirituelle, hein, empreinte d'une culture qui sacralise notamment la nature, symptomatique des tiraillements à l'œuvre dans le capitalisme d'ailleurs. Le Japon est-il de ce point de vue précurseur en matière de lutte pour l'environnement ?
Enfin, je ne dirais pas qu'il est précurseur. Il est précurseur.
Quand on voit les baleiniers japonais, on ne peut pas dire ça.
Voilà, non. Alors, il est précurseur en matière de pollution, oui, d'une certaine façon. Hein, au moment d'affaire Minamata, le Japon est la troisième puissance économique mondiale. Et il a mis tous ses efforts après la Seconde Guerre mondiale et la défaite humiliante qu'a représenté la Seconde Guerre mondiale dans la croissance économique, la réindustrialisation ou l'industrialisation du pays, bon, ce qui simplement est la poursuite de l'ère Meiji, hein. Le monde, d'ailleurs, encore une fois, hein, parce que je me réfère quand même souvent aux médias, le monde parle dès les années 70, évoque dès les années 70 le fait que le Japon est un des pays les plus pollués du monde, et que dans les villes les plus polluées du monde, il y a les principales villes japonaises. Ah oui. Et évoque la possibilité d'une destruction totale de toute végétation, de toute vie animal et végétal au sein de ces villes japonaises. Donc ça n'aurait pas dû être une surprise.
Alors tout de même, cette affaire impose le principe du pollueur-payeur. C'est important, hein, bah, sauf qu'il fait encore faut-il payer, quoi.
Alors, non seulement il faut payer. Alors bon, le principe du pollueur-payeur, c'est un principe qui a été en effet entériné après Minamata. Hein. Encore faut-il payer d'une part, et puis surtout, ça pose la question de la compensation possible, c'est-à-dire à une catastrophe. Est-ce qu'une catastrophe écologique de cette ampleur peut être compensée d'une manière ou d'une autre ? De mon point de vue, la réponse est clairement non. Il n'y a pas de compensation possible à la destruction du vivant. Mais pour autant, je ne dénoncerai pas le principe du pollueur-payeur. Simplement, il faut que non seulement il soit appliqué d'une manière assez rigoureuse pour que, en effet, les condamnés payent.
Et ça soit dissuasif.
Ça soit suffisamment dissuasif, c'est-à-dire que ça enraye suffisamment la machine capitaliste pour que continuer à polluer ne soit plus rentable, ne soit plus productif, et donc que ça constitue un frein, c'est une espèce de garantie, disons.
D'après, est-ce qu'on peut dire que l'écologie est de gauche, en fonction de ce que vous venez de dire ? Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais par rapport à ce qu'étaient les repères de la gauche et de la droite.
Oui, moi j'aurais tendance à dire oui. C'est-à-dire que l'écologie est de gauche dans la mesure où elle est critique à l'égard d'un système qui est un système économique que l'Occident a imposé au monde, hein, qui est un système productiviste, extractiviste et consumériste. Et bon, tout ça désigne clairement le capitalisme. Et donc, il me semble que effectivement, on ne peut pas faire de l'écologie sans énoncer des critique radicale à l'égard du fonctionnement de ce système.
France Inter. Affaires sensibles.
Anne-Claude Ambroise-Rendu, on l'a entendu dans le récit, l'impunité de la direction de la Chissot est renforcée un temps par la division au sein même des victimes, hein, l'attitude hostile des ouvriers et de tous les autres bien portants vis-à-vis des malades qui, finalement, leur tend à volontairement un miroir mortifère. Donc la crainte de la mort économique d'un territoire est-elle toujours, voilà, on l'a vu, ça a été un levier, est-elle toujours un levier pour continuer à polluer une bonne raison? Voilà, on peut pas fermer cette usine parce que ça va détruire l'emploi.
Non, je crois que ça fait 3 siècles que c'est un levier extrêmement efficace et que toute l'industrie occidentale et ailleurs s'est développée sur cet argumentaire-là. À la fois en arguant de la possibilité du développement d'un territoire local. Alors, c'est le cas pour Minamata, c'est très intéressant, c'est-à-dire que Chissot fait comme s'il n'y avait eu aucune activité humaine et économique avant l'installation d'une industrie. Or, il y avait une activité, puisqu'il y avait de la pêche. Et ça, c'est un grand classique dans les industries, dans l'installation des industries, c'est-à-dire elle vise des territoires qui semblent qu'elle désigne comme étant des territoires du vide, en quelque sorte. Alors, on pourrait citer un autre exemple beaucoup plus près de nous, hein. C'est l'ouverture des mines d'uranium dans le Limousin à partir des années 1950. Limousin, c'est un peu comme la Pologne, hein. C'est-à-dire, ça n'existe pas, c'est nulle part, pour citer Alfred Jarry. L'exploitation de ces mines d'uranium a été une manne financière, une manne économique considérable pour le Limousin. Elles ont fermé en 2001. Depuis, le Limousin est retombé en quelque sorte dans cette espèce d'économie agricole qui semble insuffisante au développement d'un territoire. Et personne n'a songé, enfin personne, si quelques chercheurs ont songé à essayer de faire le bilan de cette installation-là. Mmh. Mais évidemment, il y a un coût humain à ça. Voilà. Alors c'est aussi ce qui explique qu'il soit très difficile dans ces conditions, et on le voit bien avec les ouvriers de Minamata, de produire une critique radicale de la modernité techniciste. D'abord aussi parce que tout au long de la révolution industrielle, et on peut le dire jusqu'à aujourd'hui, il y a une espèce de fascination pour l'industrie chimique, pour la technique, pour la science, et pour toutes ces promesses de développement.
Ce qu'on appelle faussement le progrès.
Voilà, ce qu'on appelle le progrès. Et le raisonnement sous-jacent à l'installation de ces industries dans ces territoires oubliés, ces territoires périphériques, ces territoires qui sont minorisés, hein, c'est que bon, il est impossible de se développer sans polluer, et donc on compensera, parce que ça, on compensera financièrement, ça revient toujours moins cher que de prévenir la pollution. Et donc au fond, ce qui est à l'arrière de tout ça, c'est l'idée qu'il faut sacrifier des territoires pour le progrès.
Mais à contrario, est-ce qu'il peut y avoir une convergence des luttes entre lutte sociale et lutte pour l'environnement ?
Oui, alors il me semble qu'il doit y avoir, parce qu'il doit y avoir.
Mais comment
et, alors, on l'a vu, on le voit avec l'exemple de Chissot, vous avez évoqué le syndicat. En réalité, il y a eu, jusqu'en 62, il n'y avait qu'un syndicat, et qui était largement un syndicat maison, donc entre les mains de la direction de Chissot. Et puis, à la suite d'un certain nombre de mouvements sociaux dans l'usine, se crée un deuxième syndicat qui, lui, va mener cette lutte que vous avez décrite. Et c'est lui qui a publié en août 68, cette déclaration de la honte. Actant le fait que finalement les intérêts de ces pêcheurs pauvres et de ces ouvriers maltraités au sein de leurs usines, parce qu'ils en ont profité effectivement pour faire une espèce de bilan de la manière dont ils étaient traités dans un système qui exigeait d'eux une hyper rentabilité, une hyper productivité, et donc cette déclaration de la honte dans laquelle ils ont pris acte du fait qu'ils étaient à l'origine de la pollution, est quelque chose de tout à fait exceptionnel dans l'histoire du Japon, d'ailleurs dans l'histoire mondiale.
Absolument. Et alors, les malades de Minamata, que sont-ils devenus ? Est-ce qu'il y a une prise en charge ? Comment ça s'est passé ? Et dans quel état de santé étaient certains ? Alors, certains sont morts, on l'a vu. Ceux qui ne sont pas morts ont été atteints longtemps dans leur vie. Qu'est-ce qu'on sait de tout ça, de l'état sanitaire ?
Alors, c'est une histoire qui n'est pas finie, justement. C'est pour ça que ça intéresse l'historienne que je suis aussi. C'est parce que ça n'est pas qu'une histoire, ça n'est pas que de l'histoire. Hein. C'est quelque chose qui se conjugue au présent et au futur. Donc, vous avez évoqué le fait qu'un certain nombre de ces malades n'ont pas été reconnus comme victimes de Minamata. Alors, là-dessus, les chiffres varie, 50 000, 70 000, on ne sait pas très bien. Et donc, pour cela, il n'y a pas de prise en charge. Et quant aux autres, un certain nombre sont morts. On a parlé de Tomoko et d'autres aussi. Et surtout, ce qui me semble le plus intéressant, c'est que en 1990, la poldérisation de la baie de Minamata a été décidée. C'est-à-dire qu'on a comblé cette baie dans laquelle le mercure, au fond de laquelle le mercure s'était déposé, c'était trop compliqué de l'enlever intégralement. On a comblé la baie et on a installé un écoparc. Et ça me semble tout à fait symptomatique de la manière dont on veut oublier. Enfin, c'est pas qu'on veut oublier, c'est qu'on veut faire croire que c'est du passé.
Ouais,
or, les pollutions ne sont jamais du passé, parce que le mercure, voilà, c'est pas un polluant éternel, mais on en est quand même pas très loin, et que donc ça s'inscrit dans le temps long.
Et c'est toujours un danger pour l'homme, le mercure. Oui, c'est un danger pour l'homme d'un point de vue clinique. Mais il est toujours utilisé par l'industrie. Est-ce qu'il est surveillé? Est-ce qu'on considère que c'est un danger majeur, le mercure?
Alors oui, il est surveillé. On considère, grâce en partie à Minamata, que c'est un danger majeur, puisque un des effets positifs de cette affaire de Minamata, ça a été la décision d'une convention internationale, décision prise en 2013 qui n'a été actée qu'en 2017. Bon, c'est ça la diplomatie.
C'est long. Hein.
C'est long.
Le temps long.
Et pendant ce temps, la légende s'empoisonne. Et il y a 147 signataires, je crois, donc invite les signataires à diminuer la production de mercure, à ne plus l'utiliser, bref, et à essayer de limiter les rejets de mercure. Mais on voit bien que ça ne suffit pas, puisque très récemment, une association que je ne nommerai pas ici, et très récemment, c'était au mois d'octobre, a révélé les teneurs absolument extraordinaires de mercure dans le plomb pêché et donné à la consommation dans le monde entier. Donc le mercure, il y en a partout, on peut dire que tous les produits de la mer que l'on mange sont pleins de mercure.
Mais cette association, vous ne voulez pas la citer?
Ah si, c'est Bloom. C'est l'ONG Bloom, absolument, qui est une association de défense des océans, et qui a donc révélé ces teneurs de mercure dans le thon en conserve.
Ce livre dont je parlais, Une histoire des luttes pour l'environnement, a été écrit par vous, Serge Gibon, Charles-François Matisse et Alexis Vrignon. Et on apprend, où on redécouvre que les préoccupations écologiques étaient déjà en cours au siècle des Lumières.
Oui, c'est lié d'une part au développement d'un pré-romantisme, et puis aussi aux premiers effets de la première révolution industrielle. Là, il y a une rencontre entre, d'une part, une sensibilisation du rapport au monde et du rapport à la nature, et une prise de conscience que, chez Rousseau notamment, pour ne pas le citer, une prise de conscience du fait que l'homme n'est pas dans un rapport, ne devrait pas être dans un rapport de domination, de contrôle et de maîtrise à l'égard de la nature. Il est dans la nature, il est la nature, et ça Rousseau le montre très bien, et que dans ces conditions, les effets de la révolution industrielle vont être difficiles à maîtriser.
Bien sûr. Quelle était la volonté éditoriale de ce livre ? Alerter, informer ?
Oui, bien sûr, on peut pas écrire...
Alerter d'abord ?
On peut pas écrire un livre comme ça sans avoir le désir d'alerter, tout en sachant que, justement, parce que c'est ce que montre ce livre, les alertes, elles existent depuis la fin du XVIIIe siècle, avec quels effets concrets, vous l'avez dit tout à l'heure, ils existent, les effets concrets, mais ils sont notoirement insuffisants.
Est-ce que la prise de pouvoir de Trump, hier, vous inquiète ?
Ah oui, je ne suis pas la seule. D'ailleurs, j'ai vu en arrivant Jean Jouzel évoquer cette question. Bien sûr, c'est tout à fait effrayant le fait qu'il veuille relancer l'extraction des énergies fossiles. C'est un peu la fin des accords sur le climat.
Bien, ce sera le mot de la fin, si j'ose dire. Anne-Claude Ambroise, rendu. Merci. Au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le drame de Minamata. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Thévenot.